Diaporama. Voilà, merci beaucoup. Bien, donc avec le titre donc, que j'ai voulu donner à mon intervention aujourd'hui, donc les amateurs d'art, enfin les amateurs, pardon, sont-ils des artistes? Les usages sociaux et politiques du goût au XVIIIe siècle. J'ai voulu insister sur les deux idées suivantes, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse, et donc qui s'intitulait, comme Jacqueline Lichtenstein l'a dit, les amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle. La première idée, c'est que l'amateur d'art à l'époque moderne n'est pas seulement quelqu'un qui se situe du côté de la réception de l'art, c'est-à-dire du côté des pratiques de collection, de critique, de mécénat, mais c'est aussi quelqu'un qui produit, et du côté de la production artistique. L'amateur d'art est aussi un artiste amateur au XVIIIe siècle, et ça c'était une perspective qui était assez largement délaissée par l'histoire de l'art à l'époque moderne au moment où j'écrivais ma thèse. La deuxième idée, c'est que les pratiques d'amateurs ont un rôle social et politique dans l'espace artistique des Lumières. Une fois que j'avais mis au jour ces pratiques d'amateurs, et c'est ce que je vais reparcourir ce chemin avec vous tout à l'heure, j'ai voulu montrer que ces pratiques d'amateurs n'étaient pas seulement des pratiques de divertissement, de pur loisir, mais c'était aussi et surtout des pratiques sérieuses. Sérieuses d'abord au sens où elles participent au XVIIIe siècle à la définition politique d'un modèle du public, et pratiques sérieuses aussi dans la mesure où elles produisent de la valeur et des savoirs artistiques. Au XVIIIe siècle, donc, les pratiques d'amateurs sont des pratiques savantes. Donc, j'ai voulu un petit peu réhabiliter, si on pourrait dire comme ça, les pratiques d'amateurs. Donc, ma réflexion de manière générale, je voudrais juste présenter un petit peu le cadre général de ma réflexion, puis ensuite j'en viendrai vraiment aux pratiques d'amateurs proprement dites, mais je voudrais, c'est important à mon sens, les resituer dans le cadre général de ma réflexion. Donc, ma réflexion se situe au croisement entre l'histoire et l'histoire de l'art, avec un usage aussi des sciences sociales, en particulier de la sociologie de l'art et de la culture. Donc au point de départ de ma recherche, il y avait ce constat que j'avais fait dans mon débat, en fait, de la fréquence du terme d'amateur dans les sources artistiques du XVIIIe siècle. Alors les sources artistiques, c'est les périodiques généraux, les Mercure de France, Journal de Paris, etc. La littérature artistique qui commence à naître, à se développer, donc les traités théoriques en particulier sur la peinture, et enfin les catalogues de vente. Vous voyez, le terme d'amateur est vraiment omniprésent dans toute cette littérature artistique-là. Alors, dans les dictionnaires, le terme est mentionné pour la première fois dans le dictionnaire de l'Académie française en 1687. Alors, on sait qu'il y a toujours un petit retard, bien sûr, hein, le dictionnaire de l'Académie française est un peu là pour entériner un usage, mais ça donne quand même un indicateur. Et le terme qui, à l'origine, était utilisé comme adjectif qualificatif, prend progressivement une forme substantivée. En 1751, l'Encyclopédie, donc de Diderot d'Alembert, est le premier dictionnaire généraliste dans lequel le terme d'amateur est spécifiquement rapporté à la peinture. Je cite, « C'est un terme consacré aux beaux-arts, mais particulièrement à la peinture. » Donc, ce n'est pas seulement un terme qui va qualifier des pratiques culturelles ou autres, mais ça commence à se spécifier dans un domaine particulier, celui de la peinture. Enfin, dernier indice lexicographique, la définition d'un dictionnaire portatif, donc un dictionnaire portatif, c'est un petit peu différent, c'est plus une sorte d'abrégé, quelque chose c'est un dictionnaire qui rassemble les mots courants de la peinture, mots nouveaux, donc qui commençaient à rentrer dans l'usage commun. Donc on a un petit peu des dictionnaires portatifs de peinture. Donc dans un dictionnaire portatif de peinture, pardon, celui de Lacombe de Prézel, l'auteur est un des premiers qui construit la figure de l'amateur dans un rapport aux pratiques artistiques non professionnelles. Je cite, « On appelle ainsi une personne qui se distingue par son goût et par ses lumières dans quelqu'un des beaux-arts. » Ça, c'est une définition assez commune, le goût, les compétences dans les pratiques dans les beaux-arts. « Quoi qu'il n'en fasse pas profession. » Donc là, on a une opposition déjà sous-jacente entre une figure de l'amateur versus une figure du professionnel. Et là, c'est pareil, c'est dans les années 1750. Donc on voit qu'il y a un tournant dans les dictionnaires au moment des années 1750. Alors au-delà de ce travail taxinomique des dictionnaires, qui s'efforce de spécifier tout à la fois une figure de l'amateur, une figure du connaisseur et une figure du curieux, donc on essaye de hiérarchiser, de spécifier des formes de rapport à l'objet. Alors là, je renvoie aux travaux de Christophe Romian, dont vous avez peut-être parlé auparavant, donc, qui a travaillé donc, sur ces figures du curieux, de l'amateur et du connaisseur au XVIIIe siècle. Donc au-delà de ce travail taxinomique des dictionnaires, on assiste au développement de polémiques très violentes autour de l'amateur dans toute la littérature artistique du XVIIIe siècle. On parle de prétendus amateurs, de faux amateurs, de vrais amateurs, de demi-amateurs. On a comme ça toute une série d'adjectifs qui viennent introduire une hiérarchie de valeurs, en fait. L'amateur est toujours associé à des hiérarchies de valeurs, des expériences légitimes de l'objet, ce qui invite, à mon sens, à se déprendre de la représentation de l'amateur comme figure désintéressée et universelle de l'amour de l'art. Il y a bien des enjeux sociaux et politiques dans cette figure, comme le montrent toutes ces polémiques, très nombreuses et très virulentes au XVIIIe siècle. Donc, enjeux sociaux et politiques de cette figure dans un espace artistique marqué au XVIIIe siècle par la monarchie. Hein, c'est essentiel de le rappeler. Si on reprend l'expression de Oscar Christeller, donc plutôt du côté un historien des idées et de la philosophie des idées, Christeller parle de système monarchique des arts. Donc j'insiste sur cette importance de l'Académie royale au cœur de l'espace artistique parisien. Or, une fois que j'avais fait ce premier repérage lexicographique, il m'a toujours semblé curieux de voir que le terme était utilisé de manière large, imprécise, voire anhistorique dans l'historiographie, que ce soit dans l'histoire socioculturelle ou dans l'histoire de l'art. L'amateur, en général, désigne celui qui aime l'art. En sens large de public, en fait, un usage un petit peu mou, une sorte d'impensé, de faiblesse conceptuelle du terme pour le XVIIIe siècle. Dès lors, je me suis fixé trois buts. Le premier, j'ai voulu identifier le faisceau des pratiques qui participent à l'émergence d'une figure de l'amateur. C'est-à-dire que j'ai voulu entreprendre de définir l'amateur. C'est-à-dire que l'amateur, souvent, on dit qu'il échappe à toute définition. Alors, j'ai voulu montrer qu'au XVIIIe siècle, pas du tout, au contraire. Hein, il est fortement défini. Et un des enjeux historiographiques de cette démarche est bien sûr de montrer que l'amateur ne peut pas se réduire à la figure du collectionneur. Donc il a fallu arracher un peu l'amateur au collectionneur. On a souvent tendance à confondre l'amateur d'art avec un collectionneur. Au XVIIIe siècle, ça n'est pas du tout la même chose. Bon, le terme de collectionneur n'apparaît qu'au XIXe siècle. La figure sociale, discursive, voire romanesque, n'apparaît qu'au XIXe siècle avec Balzac et ses personnages. Le terme et la figure n'apparaît pas de cette manière autonome au XVIIIe siècle. L'amateur ne se réduit donc pas à la pratique de la collection. Au contraire, au XVIIIe siècle, il est défini par un faisceau de pratiques, ça qui est important, l'exercice du goût. On l'a vu dans la définition du dictionnaire, la sociabilité avec les artistes, les pratiques non professionnelles de l'art, et enfin la connaissance des œuvres. Je reviendrai sur tout ça. Ça, c'était la première chose, donc le faisceau des pratiques qui définissent l'amateur, en fait. Deuxième question, existe-t-il une identité sociale d'amateur ? En fait, le sens de la question, là, c'était de dire, est-ce que le goût pour l'art est une part importante ou même constitutive de l'identité personnelle ? Qu'est-ce que cela veut dire d'être qualifié ou de se présenter comme amateur? Ici, bien sûr, hein, il n'est jamais question de dire un tel. Moi, il n'est jamais question pour moi de dire un tel est amateur ou n'est pas amateur. Mais de comprendre pourquoi tel ou tel se présente comme amateur ou est présenté comme amateur. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présenté ou disqualifié ou critiqué comme amateur? Pourquoi c'est si polémique? Donc ça, en fait, ça relève plus d'un questionnaire qui vient de l'histoire sociale et culturelle. C'est la question des identités, en fait, qui est au cœur d'un questionnaire assez actuel sur les identités sociales en histoire sociale et culturelle. Et enfin, dernière question pour moi, c'était de comprendre donc les enjeux politiques qui sont associés à la figure de l'amateur. Bien, donc, à distance d'une perspective esthétisante et souvent idéologique, qui naturalise le goût, à mon sens, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, un tel est amateur, et le goût, il est là, on ne sait pas pourquoi, etc. Donc, à distance de cette perspective esthétisante, et aussi à distance d'une forme de réductionnisme sociologique, qui envisage le goût uniquement comme un élément de la distinction, l'idée de départ, pour moi, était de comprendre comment l'amateur s'impose comme une figure centrale dans l'espace artistique. Vous voyez bien là un petit peu hein, comment j'essaie de mettre à distance, je ne sais pas si je suis claire, à la fois une forme de sociologie critique, donc bien sûr celle de Bourdieu, hein, dans son ouvrage La Distinction, c'est-à-dire que lui, il analyse le goût comme une forme de stratégie sociale, le goût fait partie de la stratégie sociale des acteurs, donc ça c'est intéressant, hein, il y a des stratégies de distinction, mais il n'y a pas seulement ça. Moi, j'ai voulu croire aux acteurs et croire que le goût n'était pas seulement un élément de, vous voyez, de distinction en fait. Donc je me suis un petit peu mise à distance de ça, de ce réductionnisme sociologique, puis aussi à distance d'une forme d'esthétisme, en fait, qui naturalise le goût, quoi. Le goût est là, il ne cherche pas à comprendre. Hein, comme par hasard, c'est quand même, ça correspond à un certain groupe social, etc. Donc voilà, j'essayais juste de comprendre comment le goût devient une compétence culturelle. C'est nouveau, hein, le goût pour les arts au XVIIIe siècle, c'est une nouvelle compétence culturelle. Et c'est aussi un marqueur social, alors que ça ne l'était pas auparavant. Et ça, c'est très important. Donc, pour échapper à cette aporie, cette double aporie, et pour prendre au sérieux les amateurs, je me suis servi de mes lectures en sociologie de l'art. Alors, la première lecture, celle d'Howard Baker, Les mondes de l'art, donc un ouvrage publié en 82 et traduit assez rapidement en 88, qui insiste sur le fait que l'art est une activité collective. L'artiste n'est pas un génie isolé, hein, je reprends sa thèse, comme dans l'idéologie romantique en quelque sorte. Au contraire, ce qu'il montre, c'est que les critiques, les marchands, les collectionneurs, les journalistes et tous les autres, tous les acteurs des mondes de l'art, participent à la construction de la valeur de l'œuvre. Je le cite, « L'œuvre d'art que nous voyons commence et continue à exister grâce à la coopération de toute une série d'acteurs. » Donc l'art est une activité de coopération de toute une série d'acteurs. Alors ça, c'est donc le premier emprunt... un emprunt enfin, qui m'a permis de réfléchir au rôle des amateurs, enfin, de se situer dans cette perspective générale proposée par Howard Baker. Et deuxième emprunt, un emprunt à la sociologie de la médiation de Antoine Aignon. Antoine Aignon, donc, qui lui aussi... alors j'ai amené seulement son deuxième ouvrage, mais il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La sociologie de la médiation » chez Métayer. Et il propose une sociologie qui s'intéresse aux médiateurs. Alors, là aussi, cet ouvrage s'inscrit dans le vaste processus historiographique de repeuplement des mondes de l'art, contre le mythe romantique du face-à-face de l'artiste et de son œuvre, en fait. Lui aussi, il va repeupler les mondes de l'art. Il retrouve de nouveaux acteurs qui participent à la construction de la valeur de l'œuvre. Et ce sont ceux qu'il appelle les gatekeepers, donc les passeurs de frontières, on pourrait dire, les définisseurs privilégiés du goût. Vous me dites, hein, si je vais trop vite, si vous avez des remarques ou... Il fait chaud en plus, donc je ne voudrais pas vous assommer de références. Interrompez-moi surtout. En fait, le mot, là, il insiste dans son ouvrage, il parle de médiateur et pas d'intermédiaire. Alors, on pourrait dire, ouais, c'est un petit peu à la mode, etc. Le terme de médiateur, pour lui, est important. Il considère que les intermédiaires sont des gens qui tissent des relations. Alors que le médiateur, lui, est un opérateur de transformation. Il crée le goût. D'accord ? Il n'est pas juste là pour tisser des relations. Il ne va pas juste... c'est pas... le traducteur est un médiateur, bien sûr, et pas juste là, c'est pas juste quelqu'un qui va donner l'œuvre telle qu'elle est. Non, il va aussi participer à la création de l'œuvre, en fait. Donc, il insiste vraiment sur ce terme de médiateur, d'opérateur de transformation. Et alors, dans l'exemple, dans les livres là que j'ai amenés, que je vais éventuellement faire circuler, La grandeur de Bach, l'amour de la musique en France au XIXe siècle, il s'intéresse en fait surtout aux amateurs de musique. Et il montre que, avec Jean-Noël Fauquet, hein, l'amateurisme devient un nouveau régime esthétique, artistique. Pardon. Je le cite. « Ce sont eux, les amateurs, qui, en faisant de la musique un objet de dégustation élaboré, inventent, modifient et développent à la fois les répertoires, les compétences, les supports et les institutions qui sont en mesure de combler de musique leur désir de musique. » Bref. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les amateurs inventent, modifient et développent des répertoires, des compétences, etc. On va y revenir, c'est très important. En fait, dans son ouvrage, donc La grandeur de Bach, les auteurs, enfin Aignon et Fauquet, montrent que la création du répertoire de Bach, en fait, la création du répertoire des chefs-d'œuvre de Bach, est complètement dépendante du rôle des amateurs au XIXe siècle. Ce sont les amateurs, en quelque sorte, qui ont constitué ce répertoire de Bach. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont permis d'inventer de nouveaux cadres d'écoute. Ils ont participé à l'invention de nouveaux médias. Et c'est le moment où on invente l'écoute silencieuse, et l'écoute absorbée, comme on l'appelle. La musique se répète, etc. On n'est plus dans un cadre religieux, de maître de chapelle, etc. Donc, ils montrent bien que les amateurs vont jouer un rôle vraiment actif dans la construction du répertoire de Bach. Bach n'existe pas sans les amateurs, c'est eux qui le constituent, si vous voulez, en grand musicien. Bach, au XIXe siècle, n'a pas de répertoire, sa musique n'est pas censée être réécoutée, et donc ce qui montre, c'est que notre écoute de Bach aujourd'hui a radicalement changé, ce qui a un rôle sur la constitution de son corpus. Je vous renvoie à son ouvrage, mais c'est vrai que ce qui m'a paru très important, c'est que lui, il parle non pas du goût, mais des usages du goût. Donc, je trouve que ça permet de déplacer un peu la question par rapport au goût constitué. Et en même temps, c'est pas tellement... Enfin, moi, j'avais du mal à savoir quoi en faire, en fait. Donc là, on parle des effets du goût, des usages du goût. Bien, donc là, on a un travail de sociologie, en fait, sur les grands amateurs, parce que c'est pas tout le monde non plus qui peut, comme ça, constituer le répertoire de Bach, qui a une écoute suffisamment savante des œuvres de Bach. Donc, en fait, on a ici une étude, en quelque sorte, des grands amateurs, d'accord ? Mais parallèlement à ce travail de sociologie, donc sur les grands amateurs, la sociologie contemporaine s'est aussi intéressée aux pratiques plus massives des amateurs. Des amateurs un peu comme, enfin, comme moi, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne sais pas, si je fais un dessin ou la musique, enfin, bref, ça n'a aucun effet sur rien du tout, c'est des pratiques massives d'amateurs, je dirais. Et là, on a deux ouvrages hein, sur les pratiques massives de loisirs des amateurs, donc les pratiques non professionnelles. Un ouvrage important, Olivier Donat, Les amateurs, enquête sur les activités artistiques des Français, 96. En fait, ça, c'est une commande du ministère de la Culture. Il va s'intéresser. C'est vraiment une étude sociologique. Qu'est-ce que les Français, pardon, ont comme activités artistiques le mercredi, le samedi, le dimanche. Enfin, là, je passe. Mais vous voyez, il y a un questionnaire comme ça. C'est de la sociologie de la culture. Quelle heure est leur âge, leur sexe, les conditions d'accès à la culture, etc. Voilà. Donc ça, c'est les pratiques plus massives. Et deuxième ouvrage aussi d'Antoine Aignon, là aussi, mais radicalement différent de l'ouvrage sur Bach, donc qui s'appelle « Figure de l'amateur », donc écrit avec Sophie Maisonneuve et Émilie Gomard. Et là, c'est pareil, c'est les grands amateurs, quoi. C'est le développement des pratiques non professionnelles dans la France contemporaine, en fait. Voilà. Bref, donc ce long détour pour dire que ces lectures amènent à se demander ce qu'il en était des pratiques artistiques non professionnelles à l'époque moderne, en fait. Dans le cadre de la naissance d'une société du divertissement et du loisir chez les élites. La question, pour moi, qui travaillais sur le XVIIIe siècle, c'était comment l'amateur articule-t-il et fonde-t-il en légitimité deux dimensions qui sont d'un côté la consommation artistique, on consomme de l'art au sens le goût, la commande, la collection, la critique, et d'autre part, la production artistique. Et donc, c'est là donc que j'en viens au point essentiel aujourd'hui, donc, hein, l'amateur qui est à la fois un amateur d'art et un artiste amateur. Alors, l'hypothèse donc, au cœur de mon travail, c'est que, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je me répète un peu, mais donc, en dépit des usages larges ou historiques du terme, la centralité de l'amateur correspond à un moment historique spécifique, c'est-à-dire, il y a des amateurs après le XVIIIe siècle, c'est sûr, simplement au XVIIIe siècle, il y a quelque chose de particulier. D'après moi, ce que j'ai voulu développer comme hypothèse, c'est que le XVIIIe siècle est l'âge d'or de l'amateur, entre, d'un côté, l'apogée du mécène au XVIIe siècle, et d'autre part, l'apogée du collectionneur au XIXe siècle. L'amateur au siècle des Lumières est un acteur important du système monarchique des arts. Au XVIIIe siècle, il est promu en figure politique. C'est pour ça qu'au XVIIIe siècle, il a une centralité dans l'espace artistique, centralité qu'il va perdre, en fait, à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces polémiques au XVIIIe siècle qui sont si importantes. Bien. Donc c'est ça un petit peu la thèse du livre, hein. C'est historiciser en quelque sorte l'amateur en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas après, mais dire que voilà, c'est ça, il y a une centralité à ce moment-là. Bien, donc l'essor de l'amateur, mais là je vais aller vite parce que je crois que Christian Michel a dû en parler sûrement à la séance précédente, c'est que donc, l'essor de l'amateur est lié à la réforme académique qui se met en place au milieu du XVIIIe siècle. Le modèle de l'amateur tel qu'il est proposé... et non pas imposé, elle va échouer à l'imposer. Hein. Donc ce modèle de l'amateur tel qu'il est proposé par l'Académie royale de peinture, en fait, il est une réponse de l'institution monarchique à l'ouverture de l'espace artistique, à un espace public de la critique et du marché. C'est-à-dire, il y a un élargissement du public de l'art. Donc, il y a un élargissement du vocabulaire de l'amateur, qu'on voit au XVIIIe siècle. Face à cet élargissement du public de l'art, d'accord, qui est un public à son sens, je parle un peu sous un public non légitime, au sens où il n'a pas de légitimité à parler de la peinture, l'Académie royale va proposer un modèle politique et social, c'est celui de l'amateur. Et ce modèle, donc, elle le crée à travers donc, la classe des amateurs honoraires, qui peut paraître comme ça, comme une classe pas très importante, mais qui en fait, à mon sens, est une vraie tentative de réponse, même si elle est vouée à l'échec, de l'Académie royale à l'élargissement du public. D'accord ? Et donc, en fait, ce que va faire l'Académie royale, c'est qu'elle va essayer de se réapproprier ce vocabulaire de l'amateur. Elle dit, voilà, tous ces... je caricature un peu, mais les gens qui prétendent, qui se disent amateurs, etc., les gens qui prétendent parler de la peinture parce qu'ils sont amateurs, ces gens-là ne sont pas des amateurs. Et elle dit ce que sont les amateurs. Alors, l'amateur, selon l'Académie, c'est... il est défini par l'exercice du goût, ça reste un peu vague, il connaît les œuvres, visuellement, Il pratique les arts en amateur. Il est dans des relations de sociabilité avec les artistes. Relations de sociabilité qui sont souvent associées à l'Académie royale. C'est-à-dire que toutes les relations de sociabilité avec les artistes se déroulent pas au sein de l'Académie royale. Mais c'est le modèle de la sociabilité académique qui est légitime pour définir les relations de sociabilité avec les artistes. Voilà, ça c'est son modèle. C'est le modèle de l'amateur et qu'elle essaye d'instaurer, d'institutionnaliser à travers la classe des amateurs honoraires. Alors, donc ça veut dire que... Ouais, allez-y,
une question. Non,
s'il vous plaît.
Parce qu'en plus... Après, ce sera trop loin. C'est vraiment très précisément sur ce que vous voulez dire. Est-ce que ça vous... C'est très intéressant. Est-ce que cela signifierait que le statut de l'amateur au XVIIIe siècle, tel que vous le définissez, c'est-à-dire cette classe définie par l'Académie comme une réponse finalement à l'élargissement du public, donc on fait un vrai... Enfin, c'est comme aussi entre les vrais amateurs et les faux amateurs, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que le statut d'amateur au XVIIe siècle était très différent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une rupture, au fond, dans la figure de l'amateur entre Roger de Pilet et Quélus, en fait, on n'a pas du tout à faire au même type d'amateur?
Alors, c'est au cœur de ce que j'ai essayé de faire sur l'Académie, en fait. C'est-à-dire que, d'abord, au XVIIe siècle, le statut, il y a des honoraires, des conseillers honoraires, il n'y a pas d'amateur honoraire. C'est-à-dire que l'amateur honoraire, c'est quelque chose qui apparaît au XVIIIe siècle. D'après moi, le modèle de l'amateur tel qu'il va se mettre en place à partir des années Quélus, en fait, du moment Quélus, il y a une préfiguration avec De Pile, Roger De Pile. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a comme ça une reconnaissance du goût. Et quelqu'un qui va s'exprimer, qui va tenir un discours sur les arts, et sa légitimité est fondée sur son goût. D'accord ? Alors que, en fait, j'ai analysé le recrutement des honoraires à l'Académie royale. Et en fait, ce qu'on voit très bien, c'est qu'avant les années 40, tous les gens qui sont recrutés comme des honoraires à l'Académie ne sont pas amateurs, hein, parce qu'il y a une modification du vocabulaire aussi académique. En fait, c'est des gens qui appartiennent à l'administration des bâtiments. C'est-à-dire, ce sont des gestionnaires, en fait. En fait, ce sont des courroies de transmission entre le pouvoir royal, entre le pouvoir et l'Académie royale.
Déjà, le ministère de la Culture.
Vous voyez, en fait, on a des contrôleurs des bâtiments, on a des trésoriers des bâtiments, mais ce sont à aucun moment des gens qui ont tenu un discours sur l'art, ce sont des relais de Colbert, etc., etc. Ce sont des architectes, souvent, premiers architectes, enfin, bref. Et à partir des années 40, on a une modification du recrutement sociologique, hein. On a des financiers, on a des parlementaires, on a des diplomates, mais des gens qui tous, d'un côté ou d'un autre, parce qu'ils collectionnent, parce qu'ils pratiquent, parce qu'ils écrivent quelque chose, mettent en avant leur goût. Voilà, et ça c'est à partir... Alors, préfiguration Roger de Pile, Jean de Julienne est aussi une exception, et ensuite c'est un modèle qui s'impose et qui est théorisé avec Quélus. Voilà. Voilà. Donc, il y a cette mise en avant du goût, au sein de l'Académie, c'est nouveau dans le modèle de l'amateur, en fait. À mon sens, c'est une vraie rupture au milieu du XVIIIe siècle. Voilà, donc justement, j'ai amené quelques images de ces amateurs honoraires. Donc Claude-Henri Vatelet, ici, alors juste je vous les montre comme ça pour que vous les voyez toutes les trois d'un coup, j'en ai mis trois. Alors Jean de Julienne, bon, j'ai mis à l'envers, enfin j'ai mis à la fin. Jean de Julienne, 1722, donc vous voyez, c'est un peu avant, hein. Mais voilà, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y en avait jamais, etc., mais il y a un modèle qui s'impose au milieu du XVIIIe siècle. Jean de Julienne, donc ici, il se montre comment en praticien amateur, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dans les mains, en fait, le portrait de Watteau, hein. Donc, il se montre comment en artiste amateur, il se montre en ami de Watteau, cette sociabilité avec les artistes. Il se montre aussi avec la Croix de Saint-Michel, donc il y a aussi une question de statut social. Hein. Voilà. On regarde Dazincourt, on est Dazincourt, lui, c'est plutôt un financier. Alors, Jean de Julienne, bon, il vient de la manufacture, donc... Jean de Julienne a un statut social un peu moins valorisant au début que les autres honoraires. C'est pour ça qu'il met sa croix de Saint-Michel, d'ailleurs, hein, pour affirmer son statut. Ici, Blondel d'Azincourt, un financier, lui aussi, qu'est-ce qu'il montre dans la main? Un dessin, en fait, un dessin de Boucher. Alors, soit c'est un dessin de Boucher, soit c'est un dessin qu'il a fait, lui, d'après Boucher, d'accord? On sait qu'il a dessiné et gravé d'après Boucher. Donc ici, ce qu'il met en scène, c'est sa collection et sa pratique non professionnelle. D'accord? Autre, Claude-Henri Vatelet, qui est mon préféré, donc lui aussi receveur général des finances, donc un financier, hein. C'est important au XVIIIe siècle, le financier, c'est un banquier en quelque sorte. Lui aussi, qu'est-ce qu'il se met en scène comment? Donc pareil, richesse, hein, cette robe de chambre, etc., en soie, etc., extrêmement belle. Il rentre de Rome, donc on a la Vénus Médicis, la réplique en bronze de la Vénus Médicis, et en fait, il se montre en train de la graver. Il a un compas, et en fait, il est en train de faire les vignettes de son ouvrage, L'art de peindre, hein, qui est un ouvrage théorique sur l'art, hein, qui a été beaucoup critiqué, mais qui est tout de même un ouvrage théorique, et ouvrage théorique dont il a gravé lui-même les vignettes. Vous voyez, il a fait lui-même les dessins, les gravures, en fait, avec un artiste de l'Académie, Pierre, qui deviendra premier peintre du roi. Donc, ce qui est assez intéressant, et ça, c'est quelque chose d'assez important par rapport au XIXe siècle, pour bien comprendre la différence, c'est que si vous cherchez des représentations d'amateurs, d'abord, c'est très rare. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des collections, mais ils ne sont pas représentés en amateur. C'est rare d'avoir des représentations de soi en amateur. Et d'autre part, si vous les cherchez, vous n'allez pas trouver des gens devant leur collection, comme on va avoir au XIXe siècle, cette autonomisation de la collection, où, vous voyez, l'écrivain devant sa bibliothèque, le collectionneur devant sa collection. On n'a pas ça. Hein, ça, c'est très... Alors, on en a eu un exemple en 92, donc c'est déjà très tardif. C'est Bézenval, bon, enfin, un baron. Il est devant sa collection, puis encore, c'est pas du tout une représentation canonique, je dirais. Donc, si vous voulez, ce qui est très important, on voit bien que là, l'amateur, c'est pas le collectionneur. C'est vraiment important. Hein, et j'ai cherché, on ne trouve pas, à ma connaissance, de représentation comme ça de l'amateur en collectionneur, en fait. Ceci dit, les représentations d'amateurs en amateurs sont rares aussi, ce qui veut dire que l'amateur, c'est pas une identité sociale forte non plus. On ne se représente pas en amateur non plus de manière...
Est-ce qu'il y a... Vite, il n'y a pas de représentation d'amateur en collectionneur. Est-ce qu'il y a des représentations d'amateurs en spectateur, simplement?
Bah alors, il y a celle-là, par exemple.
Sans qu'il ne fasse rien du tout.
Ah, bah là, j'avais celle-là. Attendez, j'anticipe un peu, mais... Ah, bah non, mais... Voilà, là, mais bon, il y a avec des outils, là, aussi.
Il y a quand même des outils.
Ouais. Mais en spectateur...
Qui jouit simplement, qui jouerait simplement...
Non, je vois pas. Je vois pas comme ça. Par rapport aux représentations justement anglaises, hein, les groupes des virtuosi, etc., où on a des gens dans leur collection, c'est très différent. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle particulier, politique et spécifique à la France aussi, en raison justement de la centralité de l'Académie royale dans l'espace artistique. Ça, on pourra y revenir. Bref. Bien, donc l'amateur, c'est celui qui commande des œuvres, qui fréquente des artistes, qui produit des textes théoriques sur les arts et qui pratique en amateur. Donc les amateurs ne renvoient pas à un public large, à une audience hétérogène, qui serait celle des salons du Louvre, hein, ce public qui va au salon du Louvre. Les amateurs renvoient plutôt à des communautés de goût, marquées par des valeurs aristocratiques et élitistes, ici on en a un très bel exemple, hein, et soudées par des sociabilités restreintes. L'Académie royale les promeut en modèle du goût, afin de répondre, donc comme je le disais, à l'élargissement incontrôlé de l'espace public de l'art et au développement de la critique. Alors, ce modèle académique de l'amateur a une durée de vie assez limitée, en fait. C'est ce que j'appelle le moment Caylus, ça va disparaître. Vous avez entendu parler du comte de Caylus, j'imagine, la séance précédente, ça va disparaître en gros avec lui, puisque c'est Caylus qui va définir cet amateur, en même temps qu'il va l'incarner de manière emblématique. Donc, à partir des années 1760, à la fin des années 60, ce modèle-là est progressivement... je dirais perd de sa force, parce qu'il est remplacé par un autre modèle de l'amateur, celui qui vient de la consommation, en fait. L'Académie a échoué à imposer un modèle légitime, hein, issu du système monarchique, et c'est le modèle de l'amateur comme consommateur, c'est-à-dire celui qui achète, celui qui a une collection, etc., qui commence à s'imposer dans l'espace public de l'art, avec les catalogues de vente, le marché de l'art, etc. Donc, avec juste cette idée-là, et j'en reviens vraiment aux pratiques d'amateurs, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le mouvement de la réforme académique des années 40-50 fait une place essentielle aux amateurs, dans la mesure où elle leur donne un rôle dans la promotion de l'école française de peinture. C'est très important, ça. Pourquoi? Lorsque, par exemple, ici, François de Troyes met en scène l'amitié qui lie Jean de Julienne avec Watteau, ce qu'il fait, c'est qu'il valorise la sociabilité. Il valorise les liens de sociabilité, ce qu'en l'époque on appelle l'amitié. Cette amitié-là, en fait, cette sociabilité, elle est quoi? Elle est un support de la commande. De la sociabilité, on passe à la commande artistique. Et il y a un phénomène de massification de la commande artistique qui fait que progressivement, on a une visibilité de l'école française de peinture. C'est-à-dire que, avant la moitié du XVIIIe siècle, on a des artistes français extrêmement connus, etc. pour faire ça. Mais si vous voulez, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a l'affirmation d'une nouvelle figure, c'est celle du peintre à la mode. Et comme ça, on a plusieurs figures de peintres à la mode. Alors Watteau pourrait être considéré comme le premier. Mais après, ça se massifie. C'est-à-dire qu'on a Greuze, Boucher, Élisabeth Vigée-Lebrun, Hubert Robert, Joseph Vernet. On a comme ça une visibilité de l'école française de peinture. C'est ce que j'appelle en fait la naissance de l'art contemporain. Quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, ça naît. Quoi. Alors qu'avant, d'accord, on a des stars, en fait, mais ce sont des figures isolées, si vous voulez. Alors que là, ces sociabilités, elles sont soutenues par la mode, par la commande, par le marché. Et donc, on a une naissance là, de quelque chose de tout à fait nouveau, à mon sens, et qui est porté par les amateurs. Et donc, de ce point de vue-là, l'amateur est bien une figure politique, puisqu'il commande français. Même s'il ne commande pas de la peinture d'histoire, ce qu'on leur critique, ce qu'on leur reproche, il commande des peintres français. Bien, donc, ce que je veux dire, c'est que cette figure traditionnelle et aristocratique de l'amateur, elle véhicule une conception politique de la culture, à mon sens, qui est spécifique à l'Ancien Régime et aux Lumières. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, cette figure traditionnelle de l'amateur est constituée dans un faisceau de pratiques. L'association donc, aux institutions monarchiques, l'exercice du goût, la possession des œuvres, la sociabilité avec les artistes et les pratiques d'amateurs. Alors, je vais juste m'intéresser là, ça va être plus rapide, mais ça me paraissait important de resituer tout ça en fait, parce que sinon on ne comprend pas bien. Donc je voudrais vous présenter les pratiques artistiques non professionnelles maintenant. Donc dans un deuxième temps en fait, mais ça va être plus rapide. Bien, donc... Un premier point historiographique, c'est que, pour comprendre un petit peu d'où vient cette réflexion, c'est qu'en histoire de l'art moderne, les travaux récents des dernières années ont surtout insisté en fait sur le développement de l'enseignement professionnel du dessin. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux sur les écoles de dessin, sur les académies en province, etc. Les écoles gratuites de dessin, etc. Or, ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à travailler, c'est que parallèlement à ces usages professionnels utilitaires du dessin, hein, le dessin est quelque chose de très important du XVIIIe siècle, l'essor du dessin, quelque chose de fondamental, c'est le support de l'industrie, etc., la naissance d'une industrie, enfin des arts décoratifs tout simplement, mais c'est que, en fait, il y a aussi l'intérêt pour le dessin gagne les élites sociales. Et ça, c'était pas étudié par l'histoire de l'art moderne. Pourquoi ? Parce que ces œuvres produites par les amateurs sont très loin d'être des chefs-d'œuvre, mais je vais y revenir. Bien, donc, ce qui m'intéresse, donc, c'est de voir que l'intérêt pour le dessin gagne les élites sociales et favorise l'apparition plus massive de pratiques d'amateurs. C'est-à-dire, on n'est pas juste dans le cercle des amateurs honoraires, si vous voulez. Hein, on commence, dans les élites sociales, surtout urbaines, à pratiquer le dessin. Ça se détache un petit peu hein, du cadre très, très restreint. Alors, l'importance de ces pratiques d'amateurs, elle avait surtout été étudiée pour l'Angleterre. Donc on a des études sur l'Angleterre en fait, et je me suis un peu servi de ces études pour travailler sur la France bien sûr. Alors pourquoi ? Parce que c'est juste important de le souligner, le terme d'amateur en anglais, hein, amateur, ça veut dire le non professionnel. Hein. Si vous dites amateur, vous dites amateur, vous dites dilettant, enfin vous dites non professionnel. Donc vous ne dites pas amateur quand vous dites amateur en français. Hein. L'amateur français c'est plutôt le connaisseur anglais en fait. Bien, donc... Ces œuvres d'amateurs ne sont pas des chefs-d'œuvre. Hein. Il est même difficile de retrouver en fait, ces œuvres d'amateurs, parce qu'elles n'ont aucune valeur esthétique ou économique. Hein. Donc voilà, c'est difficile de les retrouver. À part, bon, bien sûr, on parle des eaux-fortes de Marie-Antoinette, parce que bon, c'est Marie-Antoinette, etc. Mais ça ne permet pas de parler de pratiques massives, en fait. Donc la difficulté, c'est de retrouver ces sources. Or, ce que j'ai voulu montrer, c'est que ces pratiques artistiques des amateurs, qui étaient oubliées par les historiens de l'art, avaient pourtant une place fondamentale dans l'émergence d'une culture visuelle au siècle des Lumières. Alors pour ça, j'ai étudié une série de sources qui n'avaient jamais été étudiées pour ça. Donc je suis allée voir les inventaires après décès. Alors ça c'est une source pour les non-modernistes. Mais l'inventaire après décès, c'est donc cette liste de choses que le défunt laisse à sa mort. Donc un expert ou un notaire en fait vient inventorier tout ce qu'il laisse. Et ce qui est génial, c'est lorsqu'il laisse ce que j'ai trouvé, donc des petits ateliers d'amateurs en fait. Donc des chevalets, des toiles vierges, des pinceaux. Voyez. Et donc on retrouve là ce que j'appelle une culture matérielle de l'artiste amateur qui apparaît au XVIIIe siècle. Et souvent, très souvent par exemple, Bondel d'Azincourt, qu'on va souvent, ou un autre que vous ne connaissez pas, mais Grimaud de la Reynière, qui est un financier, on parle souvent de sa magnifique collection, etc. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'il avait sa collection d'un côté, puis à l'autre bout de chez lui, parce que c'est aussi très spécialisé, les inventaires après décès, il avait un petit atelier d'artistes amateurs. Donc voilà, c'est intéressant. Deuxième source à laquelle je me suis intéressée, les livres à dessiner. Voilà, on a l'exemple ici d'un livre à dessiner. On ne voit pas bien la dédicace ici. Mais elle est dédiée à messieurs les amateurs honoraires de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc ici, on voit bien qu'il y a un glissement, en fait. C'est-à-dire que le modèle légitime de l'amateur, c'est encore l'amateur honoraire. Mais ça commence, vous voyez, c'est plus... là, c'est les pratiques d'amateurs qui l'emportent sur ces sociabilités restreintes, etc., que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, ce livre à dessiner est un livre qui n'est pas destiné aux artistes professionnels, qu'ils soient de l'académie ou des écoles de dessin. Parce que tous ces motifs-là, les chaumières, la gentille bergère, etc., le petit poupon, ça, c'est des motifs pour les amateurs. Hein. Ce n'est pas du tout le même type de dessin qu'on trouve dans les artistes, dans les livres à dessiner de professionnels, si vous voulez. Donc ça a été un type de travail sur lequel, enfin, de source qui m'a mis la puce à l'oreille, tout simplement. Voilà. Donc ici, c'est des manuels simplifiés. Hein. C'est pas du tout des traités théoriques imposants, etc. C'est des petits cahiers. En fait, c'est des cahiers hein, que les amateurs prenaient chez eux et qui s'amusaient à copier, à reproduire. Ici, ce qui est très intéressant, là, ça m'intéresse, c'est la nature. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est l'émergence de sentiment de la nature chez les amateurs. C'est une sorte de préfiguration de la peinture de plein air, hein, des aquarelles, des amateurs. Je vais un peu vite, mais vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Hein. C'est une culture visuelle qui se modifie, un rapport au monde et au sujet aussi qui se modifie. On n'est plus dans... forcément, on ne va pas forcément décrire ce qu'on voit, on va essayer de dessiner, de croquer. Et on a des manuels comme ça qui apprennent à dessiner sur le vif, etc. Voilà. Donc, avec ces indications, on voit qu'il y a toute une culture comme ça, graphique, visuelle, qui émerge au siècle des Lumières. Alors, ces pratiques d'amateurs, elles vont se massifier. Et parallèlement à cette massification, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles gagnent une légitimité croissante au sein de l'Académie royale. Ce que je vous le disais tout à l'heure, c'est que les pratiques d'amateurs, elles sont complètement légitimées au sein de l'institution, quand même, légitime par excellence, l'Académie royale. C'est-à-dire que... les pratiques d'amateurs vont jouer un rôle dans la légitimation du discours sur l'art. Alors là, je fais un va-et-vient entre les amateurs un petit peu massifs, que je vous évoquais tout à l'heure, et puis les amateurs, vous voyez, un peu plus élitistes, qui sont aussi une certaine décision du public. On pourra revenir, si vous voulez, sur ça. C'est ça qui fait la difficulté de l'amateur, hein, c'est qu'il y a ces tiraillements, en fait. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'il y a des définitions derrière, quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces pratiques d'amateurs, elles se massifient, mais elles sont aussi légitimées au sein de l'Académie royale, et elles légitiment quoi ? Le discours théorique sur l'art. Ce qui est très intéressant, c'était un peu le sujet du colloque, c'était que les artistes sont comme ça, les artistes professionnels sont disqualifiés, en fait, sont délégitimés pour produire un discours sur l'art. Ils ne sont pas assez intelligents, pas assez savants, etc. Donc c'est les hommes de lettres qui veulent parler pour les artistes. Mais il y a un troisième type d'acteurs, c'est les amateurs. Ce n'est pas des hommes de lettres, les amateurs. Hein. Ce n'est pas le même statut social que les hommes de lettres. Hein. Les amateurs, c'est plutôt des financiers, des aristocrates, etc. Les hommes de lettres, c'est autre chose, un autre statut. Mais eux aussi, ils déclarent qu'ils sont légitimes à parler de l'art. Pourquoi ? Parce qu'ils collectionnent, parce qu'ils commandent, parce qu'ils aiment les artistes et parce qu'ils pratiquent. Voilà. Donc ça s'inscrit aussi dans un discours de légitimation théorique. Alors, l'importance nouvelle de ces pratiques d'amateurs, d'ailleurs, on la voit à l'Académie royale. Et un des plus beaux exemples qu'on peut donner, c'est celui de Dominique Vivant-Denon. Vous connaissez tous, lui, je pense. Est élu à l'Académie royale. Alors, l'Académie royale commence à exposer des œuvres d'amateurs honoraires en 87, donc à la fin du XVIIIe siècle. C'est quand même intéressant, c'est que la carrière académique reconnaît les pratiques non professionnelles. On expose, dans l'espace d'émulation qu'est le salon du XVIIIe siècle, on n'expose pas que des artistes professionnels, mais on commence à exposer des œuvres d'aristocrates, de diplomates. Alors, par exemple, Denon va exposer des œuvres en 87 au salon. Le comte de Parois, d'autres aristocrates. Donc il y a une légitimité à ces pratiques non professionnelles. Elles gagnent l'espace public. Elles ne sont plus cantonnées dans l'espace domestique, mondain, hein, des pratiques privées, mais elles rentrent dans l'espace public. Ça veut dire qu'elles n'ont plus du tout le même statut. Hein. Elles entrent en concurrence avec celles des artistes professionnels. Donc on n'est plus du tout dans la même reconnaissance, je dirais. Alors, ces pratiques d'amateurs gagnent donc une légitimité institutionnelle, mais elles bénéficient des pratiques mondaines de l'image. Et donc là, je fais un retour sur les sociabilités restreintes. Elles se déploient dans des cercles restreints de société, dans les salons parisiens, dans les salons romains notamment. Ce que je veux dire par là, c'est que l'art de dessiner devient, ou l'art de peindre, devient un talent de société, à l'instar de la conversation ou de la musique. Alors, ça n'a pas la même valeur que la conversation, hein, bien d'accord. C'est mieux de savoir d'avoir l'art de la conversation que l'art de dessiner. Mais enfin, l'art de dessiner, l'art de peindre, devient un talent de société reconnu. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, une pratique qui est très à la mode, c'est la gravure, l'eau-forte en fait, hein, parce que l'eau-forte est une pratique plus facile que le burin. Alors moi, j'aurais tendance à comparer la gravure et la photo, en fait, parce que la gravure, c'est un truc un peu technique. C'est aussi quelque chose qui est appris au laboratoire. Les amateurs, ils gravent dans leur laboratoire, un petit peu comme les photographes amateurs au 19e siècle, hein, qui se diffusent vraiment, vont développer leurs photos dans leur laboratoire. Donc il y a comme ça un lien entre l'art et la technique, entre le côté un peu mondain, un peu savant, vous voyez, qui explique l'explosion de nouvelles pratiques comme ça. Alors ces gravures, donc là je vous donne un exemple, encore Vatelet, vous voyez, il gravait quand même pas mal, hein. Donc c'est d'après Pierre, je crois, non, d'après le Lorrain, c'est écrit en dessous, vous voyez, donc il y a la même signature, le Lorrain déliné à 8, et Vatelet Scoutsit 1752. Et alors voilà, c'est un recueil de vases, hein. Les vases étaient très à la mode du 18e siècle, hein. C'est la mode de... les vases de l'Antiquité, bon là c'est encore un vase un peu rococo, mais bref. Et donc il dédicace ça à Madame Geoffrin, qui était une des grandes salonnières du XVIIIe siècle. Donc on voit bien que ces gravures, et il les distribuait, hein, aux gens qui fréquentaient ces salons. Donc vous voyez, c'était un talent de société. Deuxième exemple, la livre de Julie, qui est un diplomate, qui fréquentait aussi les salons, vous voyez. Donc là encore, on retrouve, hein, le motif de la bergère, un peu, des petits animaux, des petits chèvres, etc. C'est très à la mode. Très rococo là, avec toujours, hein, cette dédicace qui moi m'intéresse beaucoup parce que c'est il la dédicace à Dupin de Franqueuil. Vous l'auriez pas bien, mais Signore virtuosissimo ed amicissimo dell'autore Henri de Julie. Virtuosissimo, il y a le mot de, c'est le talent, hein, la virtu, le plus talentueux. Donc là, c'est les pratiques d'amateurs comme talent, hein, comme pratique, la virtu, qui est valorisée. Il se représente en amateur, hein, à travers la dédicace. Bien, donc ce qui est intéressant avec ces gravures, d'abord pour moi, c'est qu'elles étaient conservées au cabinet des estampes, donc il y a toute une série, en fait, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je suis entre-temps, bien sûr. Et ensuite, surtout, parce qu'elles se prêtent à des usages sociaux, parce que la gravure, c'est reproductible. Donc vous pouvez en faire tirer, par exemple, 50, et puis vous les distribuez à vos amis. Et donc on s'amuse de ces gravures. Il y a des caricatures de société, donc j'en ai pas amené là, parce que je crois pas. Non, j'en ai pas amené. Mais bon, si vous voulez, voilà... on s'amuse un peu de choses contemporaines aussi, et on les diffuse comme ça dans des cercles restreints. Donc, à côté de ces légitimations institutionnelles, ce que je montrais, c'est que ces pratiques d'amateurs, elles s'appuient aussi sur ces pratiques mondaines de l'image qui sont nouvelles. On est donc dans un contexte où l'image devient à la mode dans la bonne société. Il est de bon ton de savoir parler des arts, de s'amuser à les pratiquer. Et les eaux-fortes donc de ces artistes amateurs se prêtent à des usages mondains. Ces gravures-là ne sont pas destinées, hein, au public, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vendues, hein, il n'y a pas d'usage commerciaux, hein, elles ne sont pas vendues. Leurs modalités de production et de circulation sont intrinsèquement liées à des espaces sociaux restreints, structurés par l'interconnaissance et la connivence. Donc, elles circulent selon une logique du don, de l'échange, et elles ont des usages sociaux, ça m'intéresse, puisqu'elles permettent d'agréger et d'identifier des communautés de goût. Hein, puisque, bien sûr, celui qui a la gravure, il est considéré comme membre du cercle. Enfin, je fais de la sociologie un peu à la serpe, mais... Enfin, je ne sais pas comment dire, à la... Mais vous voyez, c'est-à-dire que lorsque le destinataire est qualifié de virtuosissimo, c'est ça. C'est, on reconnaît son talent d'amateur. On le désigne, on le qualifie, on le valorise en tant qu'amateur, et on en fait profiter les amis, hein, le vocabulaire de l'amitié qui est présent ici, amicissimo, qu'on retrouve dans toute une série d'autres gravures. Et voilà, bon là c'est un autre exemple. Au Seigneur abbaté de Saint-Nom, donc l'abbé de Saint-Nom, qui est membre amateur de l'Académie, dilettante et diletto. Donc là c'est le terme du dilettante, hein, donc là encore une représentation en dilettante, hein, donc... Et pareil, hein, c'est une gravure. Bon, là, on voit bien que c'est une gravure un peu d'amateur, quoi. Elle est quand même moins avec trois signatures, donc ça c'est aussi, c'est assez intéressant. Guyard, l'abbé de Tersan et Comte de Tersan. Donc il y a tout un jeu aussi autour de la signature. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Après le modèle du public, je vais vous montrer que l'amateur comme modèle du public, on a aussi des. Les pratiques d'amateurs comme légitimité institutionnelle, on a aussi des pratiques d'amateurs qui sont un support à des sociabilités mondaines et support donc à des pratiques un peu plus massives. Dans ce dernier point là que je voudrais évoquer rapidement, si jamais j'ai le temps encore, sinon on arrête. Non. J'ai voulu également montrer que parallèlement à ces pratiques d'amateurs donc qui se déploient dans des cercles restreints, il existe aussi des pratiques plus exigeantes. Donc là, ça c'est une pratique mondaine de l'image, hein, on s'amuse. Mais il existe aussi des pratiques plus exigeantes. plus sérieuses, que je disais en introduction, qui exigent, qui reposent sur des compétences spécifiques et qui mettent en œuvre des savoirs nouveaux. Alors, c'est le troisième point que j'avais intitulé donc, les Rembrandtesques, donc les gravures d'après Rembrandt, les Rembrandtesques, de l'imitation à l'admiration. Ce que je veux montrer dans ce dernier point, c'est que, c'est un petit peu compliqué, c'est un exemple un peu différent, mais intéressant aussi, je pense, c'est que Rembrandt, les gravures d'après Rembrandt, vont illustrer, dans le domaine des arts visuels, l'importance des pratiques d'amateurs qui participent, je dirais, à la constitution de nouvelles valeurs esthétiques, comme la singularité et l'authenticité. Pratiques d'amateurs qui participent aussi à la constitution de répertoires artistiques et à la naissance d'une expertise sur les œuvres. Bien, je ne sais pas si c'est clair. En fait, là, de manière évidente, j'emprunte un peu mon questionnaire à Aignan, c'est-à-dire que j'essaie de montrer que, c'est ça l'idée du troisième un petit peu volet, c'est de montrer que les amateurs de Rembrandt, au sens ceux qui gravent d'après Rembrandt, pas seulement ceux qui collectionnent Rembrandt, mais ceux qui vont graver d'après Rembrandt, et on va le voir, il y en a plein au XVIIIe siècle, ils vont participer à la constitution de son œuvre, au sens, il n'a pas d'œuvre avant, c'est-à-dire que, mais bon, je vais vous le montrer à la fin, mais je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que c'est en 1751 qu'est publié son premier catalogue raisonné, le catalogue des œuvres de Rembrandt. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier ouvrage de ce type. C'est le premier ouvrage qu'on appelle catalogue raisonné des œuvres. Nous, ça nous paraît une évidence, hein, le catalogue de l'œuvre d'un artiste. Mais le premier catalogue des œuvres d'un artiste, c'est celui de Rembrandt, et c'est sur ses gravures, d'accord, c'est les gravures de Rembrandt en 1751. D'accord ? Donc, c'est important de le souligner. Et ce que je voudrais vous montrer dans le troisième point, c'est que ce catalogue raisonné en 1751, il s'inscrit dans quoi ? Dans un engouement pour Rembrandt, qui relève de la collection bien sûr, mais aussi des pratiques d'amateurs. Ce que je me fais comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, les amateurs s'arrachent aussi ces gravures, vont les collectionner, ok, mais aussi les imiter, les pasticher, les copier, et c'est ça qui va participer à la reconnaissance de l'œuvre de Rembrandt, et à sa constitution, et à la constitution de Rembrandt comme valeur esthétique, artistique au XVIIIe siècle, si vous voulez. Et participer encore plus généralement, si on monte encore en généralité, à la singularité, comme valeur esthétique au XVIIIe siècle, ce qui n'est pas du tout une évidence au XVIIIe siècle, mais je vais développer ça. Voilà, ce que je veux donc, l'œuvre gravée de Rembrandt du XVIIIe siècle se constitue à travers des pratiques d'amateurs, il en est indissociable. Les amateurs sont des opérateurs de goût, des médiateurs, qui vont participer à la construction d'un corpus et d'un répertoire. Ce que je veux dire, c'est que les gravures de Rembrandt, et d'après Rembrandt, ne sont pas seulement un terrain de jeu pour les artistes amateurs, elles font l'objet de nombreuses explorations techniques et artistiques qui sont autant de familiarisation avec le geste du maître. Derrière l'exercice d'admiration se niche le travail de connaissance et d'expertise. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant seulement des pratiques mondaines, ludiques, de divertissement. On est devant des pratiques sérieuses. Alors, ce qu'il faut souligner, parce que ça peut paraître évident, mais c'est qu'au XVIIIe siècle, la réception de l'œuvre de Rembrandt par les biographes et les critiques est très contrastée, très ambivalente. Ça me paraît peut-être un petit peu... Moi-même, ça m'étonnait, hein, j'avoue. Mais au XVIIIe siècle, si on lit ces biographes, il y en a qui vont dire que c'est bien Rembrandt, puis il y en a beaucoup qui vont dire que c'est ignoble, que c'est rustre, que c'est le fer de l'artiste est trop visible. Donc, si vous voulez, les peintures et les gravures de Rembrandt ne s'inscrivent pas, hein, dans le canon italien et pousciniste, hein, vous voyez, du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que Rembrandt n'a pas allé à Rome, il n'est pas du tout classique, etc. Donc, Rembrandt, qui pour nous est l'artiste par excellence, hein, c'est comme Van Gogh, c'est la singularité absolue, etc., au XVIIIe siècle n'est pas du tout compris. Enfin, à la fois, on lui reconnaît son génie, mais en même temps, ça choque, on ne comprend pas, il a des sujets qui choquent. Bon, ça, c'est pas passé, bon, tant pis. Là, c'est un mendiant, bon, je vais vous montrer comment il est gravé, etc. Mais il a des sujets ignobles, d'ailleurs, il est d'extraction ignoble, il fréquente la basse société, etc. Donc, pour aller vite, il ne correspond pas à une peinture intellectuelle, la touche est trop épaisse, les sujets ignobles, etc. Donc, s'il y a une difficulté du côté des critiques à apprécier son œuvre, à la juger, ils n'ont pas les outils théoriques, en fait, pour la juger, en même temps, ça n'empêche pas qu'il y a un engouement certain du côté des amateurs. C'est indéniable. C'est-à-dire qu'on a des gens comme Tronchin, donc lui, c'est un Genevois, hein, François Tronchin, une grande famille d'amateurs, Et là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que, bon, alors là, il est devant sa. C'est un des rares portraits, mais c'est suisse, hein, c'est Lyotard, c'est un peu particulier. Devant la. C'est pas une collection, mais il y a des tableaux, hein, donc. Mais en fait, voilà, il montre ce tableau de Rembrandt, la femme au lit, la Bethsabée. Et en même temps, donc, il collectionne, il a un tableau de Rembrandt, et en même temps, hein, c'est les outils, là, le compas, etc. Il copie Rembrandt. D'accord ? Donc il y a vraiment un engouement à la fois pour les œuvres elles-mêmes et pour la reproduction des œuvres, pour la copie. D'accord ? Donc là, on est au cœur de l'amateur, à la fois comme producteur et comme consommateur, pour aller vite. D'accord ? Alors, ça, c'est un trait. Et ce que je voudrais dire, c'est que cet engouement pour Rembrandt, il n'est pas seulement français. Il touche toute l'Europe. Il y a eu des études sur l'Angleterre, donc sur Londres. Jonathan Richardson, on va y revenir parce que c'est important, qui est donc l'inventeur enfin, du connaisseurship en Angleterre, eh bien, c'est un des plus grands collectionneurs de Rembrandt. Il va se représenter lui. On a quelques gravures de Richardson où il se représente à la manière de Rembrandt avec une toque. Vous voyez, donc il y a tout ce jeu d'admiration, d'imitation avec Rembrandt. Donc on a ça à Londres, à Paris, je vais le montrer, en Italie, à Venise en fait. Aussi en Saxe, qui est une des grandes capitales éclairées du XVIIIe siècle. Bref, vraiment, là, ce que dit quelqu'un, la manière de Rembrandt est à la mode. D'accord ? Voilà. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste que c'est à la mode, mais c'est que le fait de connaître et de pratiquer Rembrandt va devenir un signal de reconnaissance du statut de connaisseur, du connaisseurship. En fait, ce que je veux montrer, c'est que. Rembrandt, dès le XVIIIe siècle, est un laboratoire du connaisseurship. Il est au cœur des techniques nouvelles qui vont fonder le connaisseurship. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'attendre le Rembrandt Research Project, vous voyez, avec toutes ces techniques-là, extrêmement... vous voyez, le laser, etc. On est au cœur là, de l'expertise, etc. Mais dès le XVIIIe siècle, c'était déjà ça. Rembrandt permet d'inventer des critères du connaisseurship. Je vais un peu vite, hein, mais c'est pour éclairer un peu l'idée. Alors, la clé donc, de cet engouement pour Rembrandt, une des clés, c'est pas la seule bien sûr, mais elle est formulée par un artiste assez obscur, donc je vous passe le nom, qui présente précisément Rembrandt, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, donc c'est génial, comme un laboratoire du connaisseurship. Ce qui montre, c'est que seule la pratique de l'artiste, à travers l'imitation et les pastiches, permet de comprendre la force et le génie de Rembrandt, et plus généralement, d'acquérir ainsi le droit, la légitimité de parler des arts, c'est-à-dire d'avoir un statut de connaisseur. Vous voyez Je cite, cet artiste exécute avec tant d'impétuosité qu'il en résulte souvent un certain désordre dans le faire, on voit bien le désordre dans le faire, qu'on ne comprend pas bien, qui ne peut rebuter que ceux dont les idées superficielles ne cherchent dans la gravure que des travaux refroidis par trop d'arrangements, trop faits aux afféteries de nos modes, ils sont insensibles aux beautés négligées de Rembrandt, sans faire attention que ces ouvrages sont la pierre de touche du degré de connaissance qu'ils ont acquis dans ce bel art. Et ensuite il souligne, car en vain se flatte-t-on d'être connaisseur, si Rembrandt, malgré tous ses défauts, ne plaît pas. Vous voyez, donc, ça c'est vraiment magnifique, d'après moi. Voilà. Donc, ce que dit ici l'auteur, c'est que l'auteur qui est lui-même un amateur, donc en fait c'est lui, hein, Antoine Marcenet de Guy, enfin qui est un artiste, bon c'est un statut particulier, mais j'ai passé, c'est que l'imitation du maître n'est pas seulement un exercice d'admiration, c'est un travail de connaissance. C'est-à-dire c'est en le pratiquant, Rembrandt, qu'on va comprendre son clair-obscur, qu'on va comprendre sa gravure, etc., etc. Et c'est ce qu'il va travailler dans ses gravures, le clair-obscur. On le voit bien là, avec Toby recouvrant la vue. Ce qu'il travaille, là, c'est le clair-obscur en gravure. Un autre exemple, c'est Vatelet, à nouveau. Voilà. Claude Henri Vatelet, après Rembrandt. Alors, je vais passer parce que c'est un peu long après. Mais Vatelet est un des plus... Alors, il est passionnant parce que, non seulement, il a une collection de Rembrandt, des gravures, mais il a les planches de cuivre de Rembrandt. C'est-à-dire que si vous allez, je pense, maintenant aux estampes, en fait, enfin pas aux estampes, mais à la calcographie du Louvre, je pense, il y a encore les planches de cuivre de Vatelet, qu'il a lui-même retouchées. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun respect pour la planche de cuivre de Rembrandt. Hein. Il va retoucher la planche, il va essayer de comprendre comment il faisait, parce que Vatelet, hein, Svetlana Alpers a bien montré, il travaille la gravure de manière à la singulariser comme un dessin. C'est-à-dire que, donc il y a un usage, d'ailleurs il le dit, Vatelet, parce qu'il essaye de comprendre comment il fonctionne. Alors il le dit, je me suis assuré par des observations très répétées et faites avec la loupe, donc on voit bien ici le savant un peu dans son laboratoire avec sa loupe et tout, qu'il employait que l'eau forte, la pointe sèche, et quelquefois peut-être des tailles et des touches de burin peu soignées. Donc il essaie de comprendre la technique de Rembrandt. L'eau forte, le burin, la touche, c'est assez compliqué son usage, enfin sa pratique de la gravure chez Rembrandt. Et donc Vatelet essaie de reproduire, de comprendre le geste de l'artiste. Voilà, donc Bradley, c'est vraiment passionnant. Et alors, dernier, une dernière figure, c'est Vivant Denon. Enfin, Denon. Lui, Vivant Denon. Là, je vous ai montré parce que j'avais les deux en numérisé. Donc voilà, on voit bien. On ne copie pas, on ne fait pas de faux, hein, on voit bien, il copie, il imite, mais c'est en sens inverse. Hein. Il n'y a pas de, pas de volonté de falsifier ou quoi que ce soit. Hein. C'est mendiant. Denon, donc, comme les autres, comme Richardson, comme Batley, etc., il collectionne Rembrandt. Il a 428 estampes de Rembrandt. Ils ont tous, Batley, il en a 700. Hein. C'est pas des petits, il n'en a pas 100, 200, il en a 700. Il a 38 planches de cuivre dans son inventaire planier, c'est 38 planches de cuivre. Voilà, donc, un exemple. Voilà, donc, un petit peu, ici, on a à la fois un procès d'imitation, d'admiration, mais aussi de connaissance et d'expertise. Ce que je voulais montrer donc, avec ces pastiches produits au XVIIIe siècle, c'est qu'ils montrent une appropriation du style de l'artiste, et ils montrent aussi la conscience forte et nouvelle que le style, avec Rembrandt, est d'abord affaire de singularité, ce qui n'est pas évident au XVIIIe siècle. Hein. Ces exercices de style des amateurs mettent en avant la singularité de Rembrandt et la constituent en valeur esthétique, bien avant, à mon sens, le triomphe du mythe romantique, de l'artiste et du génie. C'est-à-dire que la singularité est promue en valeur esthétique. Ces pastiches amateurs, comme je le disais, sont en décalage avec la réception critique de l'artiste dans les textes des contemporains qui critiquent sa manière rustre, pas assez léchée, même s'ils reconnaissent la magie du clair-obscur. Donc, c'est l'intérêt de ces artistes amateurs et connaisseurs qui va permettre au canon Rembrandt, au corpus de ses œuvres, de se mettre en place. Donc, je vous le disais, en 51, il y a ce catalogue raisonné de toutes les pièces qui forment l'œuvre de Rembrandt, qui c'est l'œuvre gravée, hein, pas les peintures. Il s'agit du premier catalogue raisonné consacré entièrement à un artiste qui est à la fois un instrument du marché et de l'expertise. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est un nouveau type d'imprimé. Hein, avant, ça n'existait pas. Voilà. Et donc, ce travail d'attribution, d'identification, le partage entre les vrais et les faux Rembrandt qui ne s'est jamais terminé, même qui explose hein, actuellement, il est commencé, hein, je dirais, au XVIIIe siècle à travers cet engouement des amateurs au sens des artistes amateurs. Alors, juste en conclusion... Voilà, donc l'idée là de cette communication, c'était donc que j'ai voulu insister surtout sur la valeur sociale des pratiques d'amateurs, montrer que c'était à la fois des vecteurs de communauté de goût, de sociabilité, mais aussi ces pratiques d'amateurs avaient été érigées en modèle politique et en valeur esthétique. L'amateur ne doit donc pas être considéré comme un simple dilettante, ni au sens il s'amuse, ni confondu avec la figure plus tardive du collectionneur. Il est bien au cœur des transformations des milieux artistiques au XVIIIe siècle, donc travaillé par les tensions entre d'une part le modèle académique et d'autre part le développement de l'espace public, de la critique et du marché. Et ce qui est important de le souligner, c'est que cette figure de l'amateur, hein, c'est tous ces faisceaux de pratiques, va éclater au XIXe siècle avec l'autonomisation des différentes pratiques. On va avoir l'émergence de nouvelles figures, le dilettante, enfin, c'est Goethe qui va la théoriser le premier, le collectionneur, le critique, l'historien de l'art aussi. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au milieu du XVIIIe siècle, il est présenté comme cet acteur central de l'espace artistique. Merci beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas assommé. Je pense un peu, mais bon. Pas trop, j'espère. Voilà.
Non, moi j'ai quelques questions. Après, c'est pas deux fois des questions. À propos de Rembrandt, qui sont ceux qui critiquent Rembrandt? Parce que si, d'un côté, alors les amateurs sont ceux qui disent qu'on ne peut pas se dire véritablement connaisseur si on n'aime pas Rembrandt, et que Rembrandt, alors ça c'est très important, enfin, serait une sorte de laboratoire d'où naîtrait l'idée même d'expertise, etc. Qui sont ceux qui, à la même époque, vous avez mentionné les discours qui traitent Rembrandt d'ignoble, qui le critiquent, ce sont qui,
enfin,
qui...
Par exemple, alors, ça, on le trouve dans les vies hein, des artistes flamands, etc. Ils reconnaissent son génie, mais en même temps, ils sont très ambivalents. C'est-à-dire, et alors, en fait, ils reprennent le canon en fait, qui est hérité du XVIIe siècle. Donc, ils reprennent, je ne me rappelle plus, je n'ai plus en tête, mais en gros, les critiques du XVIIe siècle. Mais ces biographes, enfin, je n'ai pas de citation sous les yeux, mais critique les sujets ignobles, le fait, on ne peut pas les voir de trop près, parce que si on le voit de trop près, ça devient monstrueux. Alors ça, c'est, voilà.
Alors, si les amateurs, bon, c'est un mouvement pour Rembrandt, c'est-à-dire que surtout en train de marcher,
Écoutez, très, ça devait être cher, non? Puisque s'il y a eu une telle demande à l'égard de Rembrandt, est-ce que c'est. Est-ce que les gravures de Rembrandt se vendaient très cher? Là, c'est...
Ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas étudié en fait. J'ai vu qu'il y avait. Ça circulait, etc. Il y avait des grosses collections, ça devait se vendre
sûrement.
Cher. Vivant de nom, pardon, de nom, il achète sa collection, lui, un Hollandais, un père d'Amsterdam. Donc, toute la collection, en fait, il achète tout d'un coup. Et les gravures, je ne peux pas vous dire le prix, mais sans doute, les tableaux en tout cas étaient très chers. Hein. Il y a d'ailleurs beaucoup de fausses attributions à Rembrandt. Hein.
Enfin, non, mais justement, ça c'était une question. Je me demandais, est-ce qu'il y a des amateurs qui se sont laissés tenter par le désir de devenir faussaires, c'est-à-dire de faire passer pour des gravures de Rembrandt leurs propres gravures d'après Rembrandt? Parce que quand on voit ça, on vous dit.
Oui, par exemple,
c'est vrai qu'on résistait à cette tentation.
Je pense, oui, je pense parce que vraiment il y avait un travail de connaissance en fait. Je pense que c'est. Vatelet, lui, est dans un travail de connaissance. Il a un recueil qui s'appelle Les Rembrandtesques. Hein. Il le publie, ça ne circule pas tellement, mais il le publie. Il est dans un travail, en fait, son discours préliminaire, c'est un travail d'expertise, de connaisseurship. De nom, c'est pour ça que je vous montrais ces mendiants, il n'essaie pas du tout de falsifier. D'après moi, c'est les gens dont je vous ai parlé, qui sont donc quand même des gens, oui, c'est des pratiques exigeantes, n'ont pas, j'ai pas de connaissance de falsification. Après, je peux pas dire, mais elles circulaient pas tellement ces gravures, c'était des cercles très restreints. Vatelet, il a gardé tous ses plaques de cuivre. À ma connaissance, il les vendait pas. Enfin, vraiment, justement, on est dans cet ethos un peu de l'amateur. Oui, exigeant.
Mais même sans vendre, est-ce que non, mais est-ce que des tentatives de faire passer, même pour tromper, des choses qui ont été faites en littérature, par exemple, dans ça, il y a des faux textes qui nous dit pour mettre en défaut justement les pseudo-connaisseurs, etc.
Chez eux, j'ai aucune source qui me permet de dire ça, si vous voulez. Après, il y avait beaucoup de faux. Donc, sur les tableaux surtout. Les gravures de Rembrandt, c'est quand même c'est quelque chose d'assez exigeant. Donc, peut-être pour s'amuser, pour tromper, etc., c'est possible. Mais de là, ça devient. Enfin, je n'ai pas de source. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que ça serait séduisant comme idée. Non, mais c'est vrai. Mais ces gens-là, en fait, c'est toujours montré comme un exercice d'imitation, de travail, de connaissance.
Mais, non, parce que c'est en vous écoutant, j'avais pas du tout pensé le faussaire. Vous étiez une figure de l'amateur. On peut penser le faussaire aussi, une figure possible de l'amateur. Les grands faussaires que l'on connaît dans l'histoire de l'art, et dans l'histoire de la littérature, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, c'est à ce qu'elle fait, comment il s'appelle, merveilleux de cette.
Cet historien de la littérature de la Renaissance, un petit texte s'appelle Sur les faussaires érudits. Ça a été publié dans une collection plus ou moins de poche aux belles lettres sur le faux érudit. Et c'est absolument extraordinaire.
Ah, c'est Anthony Grafton.
Voilà, c'est le livre de Grafton. Voilà. C'est ça, Anthony Grafton. Bon. Et il montre bien qu'en littérature, mais en peinture, c'est pareil. C'est-à-dire que le faussaire, sa thèse, c'est que le faussaire, les faux nous font connaître les textes authentiques originaux. C'est-à-dire que la pratique du faux, au fond, a fait avancer la science des textes, l'établissement des textes, etc. Ce qui est une idée absolument magnifique. Et en peinture, c'est pareil, c'est-à-dire que le faussaire est quelqu'un qui est un connaisseur, qui est un amateur, etc. Alors c'est pour ça, donc, je ne prépare pas du tout, mais simplement vous m'avez fait penser à ça, comme je suis très intéressé par la question des faux, enfin par la question du faux et des faussaires. C'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à cela. Enfin, c'est vous qui m'avez mis sur cette piste. Parce que moi j'ai plusieurs questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Oui, là c'est pas vraiment c'est pas une question, c'est une suggestion, une hypothèse, et c'est en vous écoutant que j'ai pensé à ça. Parce que votre thèse, que je trouve extrêmement intéressante, c'est vrai que je n'avais pas vraiment pensé. Cette problématisation, cette théorisation du statut de l'amateur au XVIIIe siècle, au tournant des années 1750, etc., comme au fond une réponse à l'élargissement du public, hein, ce qui est vraiment votre thèse, hein, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, parce que vous avez constamment opposé l'amateur et puis au fond la figure ultérieure du collectionneur, par exemple Cousin Ponce, etc., au XIXe siècle, mais il me semblait, encore une fois, c'est vraiment en vous écoutant, hein, je n'ai pas du tout travailler là-dessus, que ce qui serait l'équivalent de cette, en termes de fonction et de structure, ce qui serait l'équivalent de l'amateur pour le 19e siècle, ce serait l'esthète. C'est-à-dire l'esthète, est, me semble-t-il, est la réponse du 19e siècle à l'élargissement du public. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si l'amateur est effectivement, c'est ça, je trouve que c'est très convaincant ce que vous, votre démonstration, c'est au fond une réponse à l'élargissement du public, c'est-à-dire qu'on crée au fond une distinction. Ça. Il me semble qu'au XIXe siècle, où le public s'élargit d'une autre manière, quantitativement et qualitativement avec la massification, etc., en fait, la réponse qui va introduire une nouvelle forme, une nouvelle modalité distinctive, c'est l'esthète, non? Plus que le collectionneur.
Ah oui, le collectionneur. Là, l'esthète, enfin, ce qui, en même temps, il y a une différence entre l'esthète et l'amateur, c'est que bon, l'esthète n'est pas promu comme ça en figure politique, enfin, à ma connaissance. Si ?
Ah, oh, si, moi, il me semble que c'est une politique réactionnaire, ouais, ouais, mais très politique, par exemple, enfin, je ne sais pas.
Hein, oui, non. C'est pas un élément qui est intéressant pour faire la configuration de différentes tables, c'est le rapport au marché aussi. Résistance à la marchandisation de la culture, alors que le collectionneur serait au contraire complice de cette dérive mercantile.
Mais l'esthète est l'anti-bourgeois aussi. La figure de l'esthète,
c'est l'aristocratique
et c'est la résistance au marché. Le Madrigal, c'est une figure politique.
C'est intéressant. Je ne l'ai pas convoqué dans mes figures, En fait, moi, j'ai surtout évoqué comme ça cet éclatement des pratiques, en fait, cette autonomisation des pratiques, mais l'esthète, oui, apparaît comme un bon pendant, tout à fait, pour l'amateur du 18e.
Une autre différence, c'est qu'il se pose aussi comme un productif, qui est en rapport avec le système de la production de consommation et
ouais.
D'entrer dans ce cercle infernal de la production.
Dans le dilettante, enfin, dans l'esthétique d'Andy, etc., on retrouve le trait du dilettante, enfin, il me semble.
Oui.
Oui, mais effectivement, il a plus d'outils. L'esthète est dans la contemplation. Il est mieux dans la contemplation, dans l'inaction. C'est l'homme de la foule, en fait, il regarde. Alors que l'amateur, c'est ça, je crois que vous avez tous intéressé dans cette idée de l'amateur, c'est comment une figure de spectacle, de quelqu'un qui. Par rapport à des objets, mais qui n'est pas dans la position d'un pur spectateur, jamais, puisqu'il pratique, alors que l'esthète, lui, ne pratique plus.
Oui, c'est le flâneur visuel. En fait.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas s'il y a d'autres.
Et d'autre part, le discours théorique ou critique qui accompagne la pratique des arts. Et j'étais frappé de voir comment vous montriez qu'à un certain moment, la figure de l'amateur était comme une instance de légitimation du discours théorique, enfin que le discours théorique trouvait sa légitimité et son droit à parler dans une pratique. À ce moment-là, la question qu'on se pose, c'est à quel moment ça disparaît, cette instance de légitimation par la pratique? À partir de quel moment s'invente le genre du salon, comme pour littéraire, les tableaux, ou à quel moment le discours critique peut s'exempter totalement, et même a intérêt à s'exempter de tout ancrage
pratique? Alors, au XIXe siècle, et en fait, moi, mon idée, c'est que ça ne perd jamais sa légitimité chez un certain... Alors, le critique d'art ne se pique plus, le critique, la figure du critique qui émerge au XIXe siècle, ne se pique plus de pratiquer, mais l'expert, donc celui qui tient aussi un discours, ou l'historien de l'art, il y en a beaucoup qui, en fait, les gens des musées, alors ça c'est une analyse que je suis en train de mener, donc je ne peux pas vraiment, c'est un peu très rapide, mais en fait, on est frappé de voir le nombre d'experts ou de gens des mondes de l'art, mais du côté des musées, etc., qui pratiquent en amateur, en fait.
Au
19e siècle. Et même, alors, j'avais...
Même encore en image.
Ouais, mais alors, je ne sais plus qui m'a eu... Mais il y a un exemple, mais... Je ne l'ai pas en tête là parce que je n'ai pas repensé, mais au 19e siècle, les pratiques d'amateurs, ça reste quelque chose qui est très, très, très fort dans ces mondes-là, et mais qui est de moins en moins, qui est là, sans être là. C'est-à-dire, c'est pas légitimé par un truc théorique, par un discours théorique, mais c'est là, c'est une pratique. Et on a comme ça, je ne sais plus quel historien de l'art, qui a plein de croquis, enfin, cette pratique de dessiner, elle est toujours là. Alors c'est, et au 19e siècle, on en a, mais c'est un mouvement européen, je veux dire. Alors je n'ai pas d'exemple, parce que, en fait moi c'était cette idée que justement ce qui n'est jamais intéressé vraiment, ou même on l'apprend de manière accidentelle, mais en fait si on le réinscrit dans cette perspective 18e, ça reprend tout son sens en fait.
C'est sans doute parce que les acteurs de l'art et les experts,
le personnel des musées ou de ce qui va devenir l'histoire de l'art entretiennent un rapport beaucoup plus savant à leur objet, qui prolonge cette idée que c'était en pratiquant aussi par l'imitation, qu'on s'approprie les œuvres. Alors que, là je reprends votre hypothèse concernant l'idée que l'institutionnalisation de la figure de l'amateur au sein de l'Académie royale était une sorte de résistance ou de réponse ou d'adaptation à l'ouverture du public, à la diffusion massive. Est-ce que d'une certaine façon, la critique, la figure de la critique qui s'invente fin 18e, n'est pas le signe de cet échec, le signe que la notion de public s'est encore plus massivement ouvert et le discours critique sera ontologiquement, on dirait, sur le même plan que celui de n'importe quel spectateur lambda.
Oui, je pense.
Je ne sais pas comment formuler
ça. C'est une très séduite orbitale.
Oui, voilà, c'est.
Historiquement.
Oui,
la Saint-Tienne.
Oui, oui. On doit avoir. Oui, non, mais le modèle tel que les gilets là, c'est un échec. C'est un échec politique. Par contre, ce qui va triompher, c'est le marché. C'est le marché et l'expertise. Alors donc là on retombe et les mondes et le musée. Donc en fait c'est les nouvelles institutions, ce sont le marché et le musée qui vont triompher, qui vont favoriser un nouveau type d'experts en fait.
Alors c'est là où, ce qui est très intéressant, merci Rebecca, parce que ça permet, je crois, de clarifier. Ce que vous avez dit, c'est qu'il y a vraiment deux aspects très différents au fond que vous avez analysé. C'est-à-dire, d'une part, il y a effectivement la constitution de la figure de l'amateur comme réponse à l'élargissement du public, et ça va échouer, enfin, historiquement, puisque le public va s'élargir et que le critique va être au contraire celui qui va porter, exprimer, représenter ce public, etc. Et l'autre aspect c'est qu'on va retrouver un autre aspect de la figure de l'amateur dans l'élargissement du public, justement, c'est-à-dire qui va requérir une expertise, etc. Et donc là, l'idée de l'amateur comme praticien, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, la pratique est nécessaire à la connaissance, et que la connaissance est nécessaire à l'amour des arts, c'est quoi peine, on ne peut pas aimer les arts sans les connaître, et on ne peut pas les connaître sans les pratiquer. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, mais jusque chez les gens des musées, comme vous disiez, mais qui n'a plus rien à voir avec la figure de l'amateur comme, au fond, réponse à l'élargissement du public. C'est tout à fait autre chose.
Tout à fait. En fait, il y a vraiment une rupture, je pense, du 19e. Et en fait, ça fait juste parce que j'ai été tétanisée par votre... Et mais maintenant, ça y est, les nombres viennent, parce qu'en fait, je travaille juste là-dessus en ce moment, donc justement sur les directeurs du Louvre, en fait. Deux noms, premier directeur, le comte de Forbin. Alors lui, on est en plein praticien, membre libre de l'Académie des Beaux-Arts, Après, il y a une parenthèse que c'est 48, donc il y a une sorte de d'artiste républicain, Comte de Nieuwerkerke. Je suis nulle, mais c'est un sculpteur, hein, et il va diriger le musée sous Napoléon. Donc, l'aspect, si vous voulez, au 19e siècle, je dirais qu'en fait, ce modèle aristocratique est un peu dilettante, en fait, là, au sens 19e, de l'amateur, on le retrouve peut-être à ce niveau d'administration muséale, en fait. Voilà. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce public élargi, de la critique, en fait, la figure du critique.
Juste pour complexifier encore, par rapport à ce que je disais sur l'opposition entre la figure du critique et la figure de l'amateur, en même temps, dans la deuxième moitié du 19e siècle, les grands critiques d'art, de peinture, ils disent tous qu'ils pratiquent la peinture. C'est-à-dire, Théophile Gautier, sur son passeport, il y avait marqué peintre, hein, peintre et homme de lettres. Les frères Goncourt, leur premier texte, c'est des dessins, les carnets de voyage d'Italie. Wismans dit qu'il a commencé sa carrière. Donc on retrouve dans la critique d'art des écrivains du 19e siècle, dans la génération après Baudelaire, en tout cas, quelque chose qui n'existe pas chez Diderot, parce que lui, Diderot, il n'arrête pas de dire « Ah, j'aimerais bien dire Anch'io San Pittore, mais je ne peux pas. » Alors que, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les critiques d'art littéraires, hein, les écrivains d'art, eux, ils pratiquent très souvent la peinture. Alors, est-ce qu'ils la pratiquent en amateur ? D'abord, ils ont souvent voulu être peintres avant d'être, biographiquement, très souvent. Les écrivains d'art sont des gens qui ont d'abord voulu être peintres, hein, et puis qui ont montré, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce qu'ils racontent. Mais je crois qu'il y a aussi l'idée, au fond, qu'on retrouve cette idée que vous avez développée, c'est que c'est ça qui leur permet, notamment à propos de Rembrandt, c'est ça qui leur permet de comprendre,
oui, voilà,
de connaître, et donc de pouvoir en parler.
C'est ça l'idée, en fait, de parler des pratiques amateurs de manière savante, en fait. Sérieuse, c'est pas des savoirs savants, enfin, c'est pas des savoirs théoriques, mais ce sont des savoir-faire, en fait, au sens de Certeau, ou des arts de faire, et qui produisent quelque chose en termes de, ce soit des savoirs savants, mais c'est des savoir-faire. Quoi. Donc, et c'est aussi un certain rapport anthropologique à l'objet, mais ça, je pense que, enfin, dans l'idée que j'en ai aussi, mais bon, c'est aussi un rapport différent peut-être au monde, ce que je disais tout à l'heure avec ce rapport au monde, cette conquête de la subjectivité, c'est-à-dire que le fait de dessiner, de croquer, c'est un rapport complètement nouveau avec le monde extérieur. Enfin, on n'est plus dans une conquête par l'écriture narrative, descriptive, mais c'est quelque chose par le geste, en fait. La conquête du monde par le geste, par le dessin, et ça, je pense, mais pour moi, c'est une mutation un peu anthropologique, quoi. C'est-à-dire, c'est le visuel, quoi. Enfin, il y a quelque chose de visuel et de l'ordre du fait, en fait.
Alors, de ce point de vue-là, moi, il y a quand même une question très importante et intéressante. C'est pourquoi ce thème, par rapport à ce que vous dites, travaille dans le dictionnaire, mais en référence à la peinture. Il n'y a pas, en référence à la littérature, je ne sais pas, l'amateur de romans ou l'amateur de livres, ni en référence à la musique, même si après il y a les amateurs de musique.
Ah, si, il y a.
Non, mais vous avez dit que le terme, il apparaît, si j'ai à un moment vous avez dit.
Oui, c'est-à-dire, parce que moi, ce que je cherche, c'est l'amateur de peinture, donc je sais pas ce que je cherche, mais bien sûr, il y a l'amateur de livres, il y a l'amateur de vases, enfin, de monnaie, de curiosité, d'objets naturels, mais si vous voulez,
dans,
il y a
dans l'encyclopédie,
voilà. C'est la première fois que c'est rapporté à la peinture. Voilà, c'est rapporté à la peinture. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout développé là ici, mais on a des amateurs de musique. C'est quelque chose qui est très répandu au XVIIIe siècle en raison des pratiques d'amateurs, justement. Parce qu'on pratique la musique en amateur, on pratique le théâtre en amateur, dans les salles de société, c'est très à la mode. Simplement, la différence que j'établirai entre ces pratiques d'amateurs et celles qui m'intéressent, c'est que celles-là, elles sont théorisées dans le cadre de l'académie. Alors que les comédiens amateurs, ils ont bien une académie, mais ce n'est pas utilisé comme modèle du public. On a des pratiques d'amateurs. Alors, c'est pour ça qu'on a plein de partitions, par exemple, on vend des partitions de musique. On voit qu'il y a tout un public comme ça d'amateurs de musique, au sens de gens qui font de la musique, de musiciens amateurs, mais ce n'est pas érigé à un moment en modèle de public. Et moi, c'est ça la grande différence que pour moi. Et c'est pour ça que je dis que, bien sûr qu'il y a des amateurs dans d'autres domaines culturels au XVIIIe siècle, le théâtre, la musique, les sciences, amateurs de sciences au XVIIIe siècle, c'est très répandu. Mais la grande différence, c'est que ceux-là ne sont pas érigés en modèle du public. C'est ça, et c'est pour ça que je dis que l'amateur est un acteur central des mondes de l'art au XVIIIe siècle, mais pas des mondes de la musique ou quoi. C'est pas la même chose. Il y a vraiment une spécificité dans les arts visuels et en France en raison de ce modèle politique. Mais ceci dit, je ne cherche pas non plus à tout tirer vers l'académie, hein, mais c'est juste remettre du politique à un moment parce que c'est ça qui permet de comprendre. Après, ça ne se réduit pas à ça. Hein.
Vous êtes d'accord, Julien, pour la musique?
Oui, complètement. Je ne sais pas
sûr,
il y aura
plein
de choses à dire, mais ça bouscule un peu.
Julien travaille sur la musique, c'est pour ça que
tu as l'air. Ah oui. Il y a plein de choses. La musique a permis à un répertoire de m'instituer, de se développer. Donc, il y a un parcours qui se développe à partir de 1750. C'est effectivement quelque chose qui se passe totalement sous le menton, de façon tout à fait discrète. Effectivement, c'est passionnant. Enfin, le caractère non institué est passionnant, mais c'est vrai que dans ce cas-là, c'est le caractère d'institution, enfin justement la dimension politique est vraiment saisissante.
Alors, je pense qu'on retrouve des pratiques d'amateurs dans ces différents domaines culturels, mais on n'a pas par exemple la classe d'amateurs. La classe d'amateurs, juste pour dire, hein, elle n'existe que à l'Académie royale, alors qu'on a une Académie des inscriptions de belles-lettres, Académie de musique, Académie des sciences. On a des classes d'honoraires. Ce vocabulaire d'honoraires, on le retrouve, mais ce vocabulaire de l'amateur, il n'existe qu'à l'Académie royale de peinture. Donc c'est ça aussi qui milite en faveur d'une forme de spécification du terme. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il est complètement capté par les amateurs de dessin, enfin des amateurs d'art, quoi. Mais ouais, sur la musique, c'est passionnant, il y a plein de...
Il y a peut-être un moment, je ne sais pas si c'est une figure théorique, mais la première mention de l'amateur, je ne vais pas me tromper au 18e, je vais revoir quelque chose avant de me prononcer, mais dans le livre de Chabanon sur la musique considérée en elle-même, dans ses rapports avec les autres arts, c'est un livre qui est dédié non pas aux musiciens qui ne s'intéressent pas à la théorie, mais aux amateurs éclairés. Et donc on a vraiment, à ce moment-là, un livre théorique qui s'adresse avant tout aux amateurs. Qu'est-ce qu'en musique ce serait... Peut-être, faudrait que je vérifie, mais ça me vient en entendant. Ça serait effectivement intéressant.
Ceci dit, il y a une différence entre la musique, c'est la question que quelqu'un doit. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui est ajouté, en revanche, il n'est pas qu'il y ait un opéra pour 4-5-4, ça
va être. Absolument. Et justement, c'est dans la pratique de l'amateur que, on va dire, la musique, le répertoire de chant, peut se développer beaucoup plus que des œuvres importantes. Ce qui fait que, et notamment, pourquoi Bach n'est pas très diffusé, il a été redécouvert avec la passion de Saint Matthieu quand Mendelssohn l'a donné dans les années 1840. Et le répertoire choral, du coup, a subi un engouement qu'il n'avait pas avant parce qu'il aurait fallu avoir des réductions, etc. Donc là, la question du répertoire joue pour le statut de l'amateur en musique, en tout cas, je pense.
D'ailleurs, à propos d'officiel et non-officiel, ce qui est quand même curieux dans ce répertoire du Quatuor à cordes français, depuis 1750, il n'a toujours pas trouvé d'édition discographique sérieuse ou de considération théorique importante jusqu'à une date récente. Pardon, non, je veux dire qu'en termes de reconnaissance officielle du répertoire, ce qui est curieux avec ce répertoire de musique amateur dans le cadre de la musique de chambre, c'est que c'est quelque chose qui est aussi bien théoriquement qu'artistiquement peu considéré. On les a très peu joués, on les enregistre très peu, on les joue très peu. Et au fond, ça reste finalement exclu, ça reste quelque chose pour un petit groupe d'amateurs passionnés qui aujourd'hui essayent d'en retrouver la trace. Donc c'est curieux de voir que le côté non politique, non institué, perdure encore dans la façon dont fonctionne ce répertoire. Mais là, ça nous éloigne du sujet, je crois. Enfin, il y aura sûrement bien des choses là-dessus.
Thank you.
dans le travail à venir. J'aurais une question à vous poser en fait sur votre travail en cours sur l'administration muséale et directeur du Louvre. Et sur cette idée que c'est dans ce personnel administratif qu'on retrouve peut-être l'équivalent au 19e de la figure de l'amateur. Il y avait un aspect, disons, rétrospectif dans ma question, c'est-à-dire qu'on voit bien, sans doute, que la figure de l'amateur, du moins au sein de l'Académie royale de peinture, est aussi une fonction qui accumule ou agglutine une fonction de type politico-économique qu'on appellera plus tard celle de la subvention, par l'achat direct, soit du conseil. On avait vu l'amateur peut aussi venir faire le regard extérieur, comme on dit aujourd'hui. La diffusion, enfin tout un ensemble de fonctions qui sont aujourd'hui, qui font l'objet aujourd'hui d'une administration d'État, enfin d'une administration culturelle. C'est pas étonnant que vous aboutissiez à cette idée que l'amateur au 19e, la survivance de l'amateur, on le trouve au sein du personnel administratif qui est en interaction sociale directe. Avec les artistes. Et après, il y aurait une dimension programmatique. Ça serait de justement analyser l'administration culturelle et le personnel des administrations culturelles au filtre de cette question-là. Dans quelle mesure, dans les parcours singuliers, on trouve très souvent des artistes ratés, des gens qui ont fait des choses comme ça quand ils étaient petits, mais qui ont abandonné, qui sont donc à la fois légitimés plus ou moins dans leur amour et leur connaissance, tout en étant dans une position d'extériorité, qui est aussi une position de pouvoir, c'est-à-dire qui ont fait l'ENA, qui ont fait des choses, et qui tiennent la manne financière, politique, etc. La figure de l'amateur comme à la fois légitimation, point de circulation entre le pouvoir et les artistes, qui peut être une forme de rouage administratif. Quoi. C'est juste un champ que vous m'avez ouvert d'un coup.
Non, mais c'est compliqué. En fait, je tiens pas à ces questions. C'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est c'est clair qu'on a, à mon sens, moi, je travaille là ce matin sur l'expertise artistique. Et donc là, j'étais sur la naissance de l'administration muséale. D'où ça vient, comment ça naît, etc. Donc, il y a une sorte de survivance de cette figure de l'amateur à travers là, ces figures que j'évoquais là, pour le 19e siècle. À mon sens, donc Forbin, etc., etc., le comte de Forbin, à la fois dans des pratiques d'amateurs, mais aussi dans des valeurs aristocratiques, hein, parce que ce n'est pas des dilettantes, hein, c'est des gens qui... c'est l'amateur pas seulement au sens de dilettante, quoi. C'est aussi l'amateur au sens valeur aristocratique, usage sociaux du goût, quoi. Faut pas naturaliser le goût, hein, surtout pas au 19e siècle. Il y a un usage aussi idéologique du goût qui est quand même, qui est de mêlé aussi. Ce que je pense, c'est que l'amateur, le terme d'amateur va perdre sa connotation politique. C'est-à-dire, par exemple, si on fait du contemporain, c'est Pinault, François Pinault, là, quand il a déménagé de Boulogne-Billancourt et qu'il est parti à Venise, tout le monde lui est tombé dessus, etc. À mon avis, c'est pas l'amateur, c'est le collectionneur, là. C'est la figure, le collectionneur, à travers le donateur au musée, il y a des travaux là-dessus. Tout ça, c'est quelque chose de politique. On est dans du politique, et l'affaire Pinault, à mon sens, je voulais commencer l'intro de mon livre justement là-dessus, quoi, montrer que l'amateur, c'est plus que c'était, en fait, ça a changé. L'amateur, maintenant, c'est plus celui qui le goût désintéressé, en fait, un amateur, c'est quelqu'un un peu désintéressé, c'est la figure qu'on en a, justement, apolitique, universelle et tout. Mais ça n'empêche pas que c'est réutilisé comme légitime, comme figure légitimante, à mon avis, dans les mondes de l'art, c'est-à-dire, mais pas de manière politique, mais de manière sociale. Et un peu plus, est-ce que les amateurs d'art, est-ce que c'est pas nous conservateurs, ou est-ce que c'est pas c'est un petit peu cette... mais c'est peut-être un peu... des salles de sociabilité restreintes, des pratiques d'amateurs... des sociabilités avec les artistes, tout ça, on retrouve cette pratique-là, mais ce qui prime, c'est plus le politique, enfin, c'est-à-dire à la base, mais c'est ces usages sociaux du goût, en fait. qui montre que l'amateur, il a une place aussi, finalement, peut-être aussi, chez les historiens de l'art aussi, je pense. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver cette figure d'amateur chez certains historiens de l'art? Enfin, c'est une question qui m'intéresse, parce que je pense qu'elle est... c'est pour ça que c'est aussi polémique, en fait. Parce que ça véhicule des questions sociales et d'ordre politique.
Et quelle figure de l'amateur on retrouverait, par exemple, chez les historiens de l'art?
C'est-à-dire cette je vous dis c'est le fait de comme ça de pratiquer, d'avoir des collections, de connaître des artistes, et ces pratiques quand même qui sont pas des pratiques courantes et qu'on retrouve dans les mondes de l'art. Je veux dire, et donc c'est ça que je trouve ça intéressant, cette survivance en fait. Alors qui prend pas du tout la même forme.
Même quand ça n'existe pas, c'est vraiment une question, est-ce que ça ne reste pas quand même là l'instance ultime de légitimation.
C'est ce que je dis.
Parce que même quelqu'un comme Pinault, on a beaucoup écrit qu'il choisissait lui-même, que ce n'était pas que des financiers qui. Donc il avait un goût, qui s'intéressait, qui fréquentait des artistes, comme des choses que j'ai vues, ça restait quand même.
Mais là, on est plus dans la figure du collectionneur, c'est-à-dire la collection comme stratégie, comme stratégie d'affirmation sociale. C'est ça que...
Oui, mais en même temps, je trouve que dans les textes que j'ai pu lire, comme ça dans la presse, on insistait beaucoup, mais ça, c'est ça, quand même, l'analyse que Raymond Moulin a fait, très idéologique du discours sur l'art. Moi, je l'avais été frappé par le fait qu'on insistait beaucoup, du fait que c'était d'abord un amateur. Je ne sais pas si le mot était employé, mais qu'il choisissait en fonction de son goût, en fonction de critères financiers.
Voilà, on retrouve tout ce qu'on a au XVIIIe siècle. Hein. C'est lui qui choisit, c'est pas les marchands, etc., etc. Mais c'est pas la même figure. Enfin, je veux dire, Pinault, c'est pas la même chose que des conservateurs. On n'est pas dans les. Il y a des pratiques de collection. Pour moi, la collection, elle est autonome, je veux dire. Enfin, je veux dire, il y a une autonomisation de cette pratique par rapport à des pratiques qui sont plus celles de l'amateur du XVIIIe siècle et qu'on retrouve, à mon avis, pas dans ces milieux-là, mais qu'on retrouve dans d'autres milieux, dans ceux qui écrivent sur l'art, en fait, ou qui sont plus proches des administrations ou des institutions, en fait, publiques, peut-être. Mais bon, c'est une question qui est...
Peu d'historiens d'art
C'est une question, vous disiez ça, moi j'aimerais bien, enfin je ne suis pas sociologue, mais moi je trouverais que ce serait passionnant de faire une enquête sociologique.
Je crois qu'il y en a sur... très peu.
Non mais sur... sur la pratique, mais aussi les sociabilités, enfin pas résoudre...
Mais c'est une partie seulement de la définition de l'amateur.
Voilà, c'est ça. Étant le questionnaire à d'autres types de pratiques en fait, ces sociabilités, cet exercice du goût...
La socialité, c'est le rapport aux artistes.
Aux artistes et aux autres.
Ça ne vaut que pour les historiens de l'art contemporain.
Oui, mais c'est intéressant.
Mais
sociabilité avec les œuvres, sociabilité avec ceux qui ont des. Parce que ça, c'est ça aussi.
Qui les possèdent.
Oui, qui les possèdent. Il y a des pratiques. Souvent, mais moi, j'ai envie d'acheter quand je vois. C'est un rapport à l'objet. C'est pas au sens idéologique ou critique, mais ça suppose un rapport à l'objet, à la matérialité de l'objet. Et c'est cette matérialité-là qui est différente, qui fait aussi cette spécificité en fait de l'objet art, quoi. Peut-être, est-ce que justement pour écrire, pour connaître, écrire, etc., est-ce qu'il ne faut pas ce rapport matériel à l'objet, est-ce que ça ne reste pas quelque chose de vrai, de vivant, quoi, ce rapport matériel, visuel, visuel, cette fréquentation, une fréquentation des œuvres, etc., mais toucher, moi dans ma tête, je vous montrais tous les moments où ils se mettent en scène en train de déballer l'œuvre, la manipuler, voilà. Et c'est ce contact-là, matériel et tout, qui aussi...
Là, vous touchez à un sujet extrêmement sensible et qui touche aussi à toute la structure éducative des conservateurs et la distinction en France entre le fait entre l'enseignement artistique, plutôt l'enseignement spécifique destiné à la carrière artistique, et les enseignements de communication, l'histoire de l'art, qui sont théoriques et en général très distincts. C'est des sujets délicats, sensibles, politiques aussi, en fait. Quand on revient à la question politique, mais par la question des circuits de formation.
Merci.
Merci à vous.